Lehenik nahi nuke eskertu jardunaldi horiek antolatu dutenak eta leku bat utzi dutelako presondegiari buruz. Je voudrais débuter mon intervention en remerciant les organisateurs du THS pour m'avoir invité à cet atelier sur le thème des prisons. Alors après avoir entendu des exposés qui étaient techniques, avec des chiffres très importants et vraiment qui montrent bien la situation des prisons dans l'Hexagone, je voudrais pour ma part intervenir en mode de témoignage, même si François l'a fait un peu, pour parler plus particulièrement des prisonniers politiques basques. Même si l'on évoque souvent la force du témoignage, je voudrais insister sur la responsabilité du devoir à témoigner. Parce que l'injustice et l'humiliation infligées à tout individu interpellent ou doit interpeller l'ensemble des individus. Il est indispensable de préciser qu'une peine est une mesure de privation de liberté. Un point, c'est tout. Pour le reste, la vie doit s'exercer dans les conditions normales, savoir l'accès à l'information, l'accès à l'éducation et à la formation, le droit à la santé et l'accès aux soins. Actuellement, les prisonnières et les prisonniers politiques basques, au nombre de 155, mais ça varie tous les jours, sont dispersés dans l'État français dans 30 prisons. Deux détenus sont incarcérés sans aucun co-détenu basque. Ils sont d'ailleurs dispersés entre 800 et 1150 km du domicile de leur famille. Pourtant, une norme européenne indique ceci, je lis. Les règles pénitentiaires européennes adoptées par le Conseil de l'Europe le 12 février 1997 établissent que si la prison est une punition, les conditions de détention et les régimes pénitentiaires ne doivent en aucun cas aggraver cette souffrance et encore moins aggraver celle des familles. Cependant, les cas d'acharnement et de cruauté politique qui perpétuent la torture en milieu carcéral, même si on qualifie de torture blanche, sont la réalité au quotidien pour de nombreux prisonniers, pour certains d'entre eux qui sont incarcérés depuis 22 ans. La dispersion et l'éloignement sont à l'origine de nombreux accidents de proches de détenus. J'ai les chiffres pour 2006. On compte 28 accidents de la route qui ont causé 20 morts, 72 blessés. Récemment, un des détenus que j'allais visiter en prison me disait « Chaque fois que nos familles, chaque fois que nos amis viennent nous visiter, vous pouvez être sûr que la nuit suivante, on ne dort pas, on tourne en rond dans la cellule. Parce que jusqu'au lendemain matin, où on pourra ou pas les appeler, on ne sait pas s'ils ont eu un accident sur la route. Et ça, c'est tous les week-ends, c'est la même histoire, et tous les week-ends, on ne dort pas, et tous les week-ends, la pression augmente, l'angoisse augmente, et c'est invivable. L'éloignement et la dispersion entraînent forcément l'isolement. Pour certains détenus basques de nationalité espagnole qui ne s'expriment pas en français, les difficultés à communiquer sont aggravées. Pourtant, le regroupement avec des détenus basques de nationalité française est souvent refusé par l'administration, sachant bien, comme je vous ai dit, qu'ils sont 150 dispersés dans 30 prisons. Toutes ces conditions provoquent évidemment la solitude, l'anxiété, la dépression, les tentatives de suicide. La prison peut rendre malade, et de façon très très importante. Les remises de peine, d'ailleurs, de libération conditionnelle accordées aux prisonniers de droit commun, je précise que l'humiliation et vraiment les conditions inhumaines, elles sont aussi pour eux, je ne retire rien à cela, mais les mêmes conditions pour, par exemple, des personnes qui sont malades et à qui on peut demander et on peut obtenir la condition, La libération conditionnelle est refusée presque systématiquement aux détenus politiques basques. Au-delà de toutes ces considérations liées à la politique carcérale, il faut signaler des conditions inacceptables des détenus atteints de maladies plus ou moins graves et pour lesquelles l'accès aux soins est un véritable parcours du combattant. Et là, je vais juste illustrer par quelques exemples qui sont vraiment édifiants. Notamment, un prisonnier qui est en prison depuis 22 ans, mais ça se situe il y a quelques mois, même quelques années, puis une crise d'épilepsie. Manque de chance, c'était un samedi ou un dimanche, pas d'infirmière. Donc, il faut aviser le directeur de la prison. Il fallait le trouver le samedi, dimanche. On le trouve. Mais il accepte qu'une ambulance puisse se rendre à l'établissement dont le détenu était incarcéré. Pour cela, il fallait qu'il fasse la demande au préfet que l'ambulance puisse venir sur les lieux. L'ambulance est là, après toutes les démarches qui étaient satisfaites, mais on se rend compte que quand l'ambulance est là, il n'y avait pas le système de sécurité pour accompagner le détenu jusqu'à l'hôpital. Donc, redemande au préfet, attente, etc. Quand toutes les conditions étaient requises, ça faisait 6 heures que la crise d'épilepsie avait eu lieu. Bon, il y a peut-être des médecins dans la salle, je ne pense pas que des crises d'épilepsie, ça dure 6 heures. Il a été quand même transporté à l'hôpital, entravé, menotté. Sa famille, qui ne savait rien, a été avisée par d'autres co-détenus qui ont appelé le lendemain à la famille. Quand les familles ont voulu avoir des informations à la prison, on leur a dit « mais nous, on ne sait pas, ce n'est pas de notre ressort, il est à l'hôpital ». Quand les familles appelaient l'hôpital, on leur disait « ah, mais on ne peut pas vous donner d'informations ». Un des exemples. Une grève de la faim. Un détenu, politique basque, a fait une grève de la faim de 63 jours. On n'en a pas beaucoup parlé dans les médias. Il n'y avait pas de place pour ça. Ça ne se passe pas au Tibet, ça ne se passe pas en Libye, ça se passe dans l'État français. 63 jours pour demander des conditions humaines et des conditions acceptables de la vie en prison. Après 63 jours de grève de la faim, il a arrêté parce que vraiment c'était... Le médecin lui avait prévenu qu'à 64, c'était plus possible. Il pensait même que 63, c'était déjà la limite. Il n'a rien obtenu du tout. Mais ce n'était pas pour lui, c'était pour le collectif de tous les prisonniers, qu'ils soient politiques ou autres. Parce que les conditions carcérales sont aujourd'hui inacceptables. Il n'a rien obtenu. Malgré de très très grandes mobilisations dans tout le Pays basque, et malgré aussi l'interpellation d'élus du Pays basque, de toute tendance confondue. Il y a aussi un détenu qui était en prison depuis 10 ans, à qui on a décelé un cancer important, grave. Après maintes demandes, il a été libéré pour quelques soins, dès qu'il a été sur un pied, on va dire, il a été remis en prison pour terminer sa peine alors qu'il lui manquait que quelques mois. Parce qu'on pense qu'en prison, il avait les conditions tout à fait optimales pour guérir ou pour au moins atteindre la rémission. Et puis, il y a cette femme dont tu as parlé tout à l'heure, qui non seulement a été promenée dans les couloirs de l'hôpital entravée alors qu'elle venait d'accoucher, mais elle a accouché entravée. Parce qu'il y avait un souci, et il y avait une grande peur que cette femme puisse fuir. Je ne sais pas si vous imaginez les conditions d'une femme qui est en train d'accoucher et en train de vouloir fuir l'hôpital. Voilà. C'est aussi ça, la violence, dont on ne parle pas. On parle souvent de la violence en Pays basque. On ne parle pas de cette violence-là. Cette violence qui est invisible pour l'extérieur, incolore, mais surtout pas indolore. Ça, c'est sûr. Alors maintenant, je vais vous raconter un dernier Il y en aurait beaucoup d'autres. Et d'ailleurs, je vois ici des personnes dans la salle qui vont pouvoir tout à l'heure, si elles veulent, témoigner de choses qui vont pouvoir illustrer les sujets que nous avons abordés. Parce que ces personnes-là, elles vivent ce que je viens de dire tous les jours depuis des années. Et tout à l'heure, leur témoignage sera important aussi. C'est pour ça que je ne vais pas non plus beaucoup rallonger mon intervention. Mais voilà, il y a quelques années, il y a une maman qui a accouché d'un petit garçon. 8 jours après, elle a voulu aller à la prison. Elle partait d'Andaille, de la gare d'Andaille, dans une prison, dans la ceinture autour de Paris, c'est-à-dire 900 km. Avec son bébé de 8 jours, elle-même accouchée depuis 8 jours. Elle est arrivée à la prison, et quand elle est arrivée à la prison, le bébé, ou malade, ou inquiet, ou en tout cas un nouveau-né, s'est mis à pleurer avec beaucoup d'insistance. Un des surveillants est venu signifier à la maman, « Bon, le parloir n'a pas encore débuté, on voit que ce bébé ne se calme pas, il va perturber le parloir de tous les autres, on vous invite à repartir chez vous. » Elle est repartie avec son bébé, 900 km, elle n'a pas pu donc le présenter au papa. Voilà, c'est ça aussi. Et ça aussi, ça ne se passe pas au Tibet, ça ne se passe pas en Libye, ça se passe à Paris. Alors, malgré des manquements dénoncés par des ONG, alors l'Observatoire international des prisons, disposant du statut consultatif auprès des Nations Unies, elle fait connaître sa préoccupation dans un courrier daté du 21 mars 1997, c'est pas aujourd'hui, et adressé au ministre de l'Intérieur et de la Justice. Et il dit ceci, l'OIP exige aux deux gouvernements français et espagnol de continuer à étudier la possibilité de transférer les détenus sur le territoire basque. Un traitement égalitaire doit être appliqué à cette catégorie de détenus, tant en ce qui concerne l'arrêt des traitements inhumains que l'accès à l'information en langue basque et l'application des pratiques de libération conditionnelle des détenus malades. C'était en 97, il y a quelques mois qui sont passés, quelques jours aussi, voire des années. D'importantes mobilisations ont permis que 2/3 des conseillers généraux du Pays basque signent en faveur du rapprochement des prisonniers politiques basques dans des prisons les plus proches de leur domicile, pour que la loi et les droits humains soient respectés. C'est resté lettre morte. La solidarité est un excellent remède dont bénéficient les prisonniers politiques basques, ça c'est un fait. Mais il est néanmoins indispensable que chaque détenu ait des droits autant que de devoirs, parce qu'actuellement ils n'ont que de devoirs et n'ont surtout pas de droits. Et je voudrais terminer mon intervention, parce qu'après je pense qu'il y a d'autres personnes, et puis il faut laisser un peu aussi la parole à la salle, qui aura sûrement des choses intéressantes à dire. Mais je voudrais terminer par la phrase que le directeur de ce colloque a utilisée en préambule de l'accueil hier. Et je veux utiliser la phrase de Miguel de Unamuno, c'est un poète, un écrivain, un philosophe basque, qui disait « Dans certaines circonstances, se taire, c'est mentir ». Mileskar.